Les parts actualités.
Bonjour et bienvenue à l'émission Les Parts Actualités du 8 janvier 2018, notre premier rendez-vous de la nouvelle année. Alors j'en profite pour vous souhaiter une bonne et heureuse année. Hélène Denis avec vous et en manchette aujourd'hui, l'ITHQ traîné devant la Commission des droits de la personne. Un budget de 138,1 millions pour 2018, STL. Pénurie de main-d'œuvre des employés adaptés. Également en manchette, la réadaptation par les jeux vidéo. Et en entrevue, je reçois Caroline Parent, enseignante à l'école Espace Jeunesse de Lanaudière et membre de la Fondation de l'école, qui viendra nous parler d'un spectacle bénéfice qui a lieu très bientôt, le 12 janvier. Et je recevrai aussi M. Daniel H. Lantaigne, qui est directeur général de la Fondation REA, qui, lui, viendra nous entretenir du programme Gens d'exception de la Fondation, lancé le 18 décembre dernier. Un groupe de défense des droits des handicapés fait suite à ces menaces entraînant l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, l'ITHQ, devant la Commission des droits de la personne, CDPDJ. Pour une terrasse non accessible, le maire du Plateau est aussi dans sa ligne de mire. Le réseau des activistes pour l'inclusion au Québec, RAPLIC, dénonce la nouvelle terrasse de l'ITHQ depuis l'été dernier. Jeudi dernier, le journal Métro dévoilait que le groupe porte officiellement plainte devant la Commission des droits de la personne pour atteinte aux droits fondamentaux d'un handicapé qui a tenté de s'y rendre. L'homme en question, Charles William Lavry, surnommé Bill, s'est rendu à l'ITHQ le 14 juin dernier avec un ami. Il a voulu dîner sur la nouvelle terrasse, mais il était inaccessible. Trois marches empêchaient M. Lavry de s'y rendre avec son triporteur. Le gérant de l'institution lui aurait alors signifié que sa présence serait une menace à la sécurité des étudiants serveurs. « Je suis déjà allé plusieurs fois à la partie intérieure de l'ITHQ pour des événements comme des fêtes et des anniversaires. C'est un joli bâtiment qui est complètement accessible avec plein d'espace pour mon triporteur. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas rendu la terrasse accessible », affirme M. Lavry en entrevue au Off-Post Québec. Selon M. Lavry, le gérant lui a dit que la terrasse serait aménagée une semaine plus tard, ce qui n'a pas été fait. L'année 2018 sera encore une fois chargée de projets du côté de la STL qui bénéficiera d'un budget de 138,1 millions. La société paramunicipale désire augmenter son achalandage de façon supérieure à l'augmentation de la population lavalloise, fait-elle savoir, en plus de viser une réduction de 10 % de ses émissions de gaz à effet de serre par kilomètre par rapport à l'année 2012. Sur l'argent injecté dans le transport en commun, 75 millions proviennent des coffres de la ville. Cette somme est cependant versée directement à l'Autorité régionale de transport métropolitain, ARTM, qui gère l'ensemble des revenus, explique Daniel Boismenu, chef communication et services à la clientèle de la STL. Ce montant provenant de la municipalité représente une hausse de 6,4% comparativement à 2017 et au cumulatif, l'augmentation atteint 30% pour les quatre dernières années. La STL a fait connaître cinq points saillants du budget 2018 le mois dernier. Tout d'abord, la société prévoit offrir 1,03 million d'heures de services, une croissance de 2,6 %. On veut aussi améliorer l'accessibilité des arrêts pour les personnes à mobilité réduite, 8 lignes étant actuellement offertes à cette clientèle. Nous aimerions en ajouter 2 autres, toutefois, des études sont en cours. On ne peut pas dire lesquelles pour le moment, il est encore trop tôt, mentionne Daniel Boismenu. En ce qui a trait à la poursuite de l'électrification des autobus, on verra en 2018 le lancement d'appels d'offres publiques afin d'acquérir 10 véhicules électriques. Également, on prévoit la mise en service de 2 autobus avec prolongateur d'autonomie. l'installation d'une borne de recharge rapide et des études en lien avec l'électrification complète du parc. La Fondation Espace Jeunesse Lanaudière organise le 12 janvier un spectacle bénéfice pour les enfants de l'école Espace Jeunesse et j'ai le plaisir d'en parler avec Caroline Parent, qui est enseignante à l'école Espace Jeunesse de Lanaudière et membre de la Fondation de l'école. Bonjour, Madame Parent.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, bonne année d'abord.
Bien, merci, vous aussi.
Merci beaucoup. Alors, quelle est la particularité de votre école d'abord?
En fait, l'école Espace Jeunesse, c'est une école qui est régionale. Elle dessert la commission scolaire dès sa mort, mais aussi, on a un peu d'élèves des affluents. Et ce qui est particulier à notre école, c'est qu'elle accueille une clientèle de 5 à 21 ans qui ont une déficience intellectuelle de modérée à profonde. Et souvent, c'est associé à d'autres syndromes, comme par exemple l'autisme, la psychopathologie ou des troubles physiques importants.
Combien d'élèves fréquentent votre école?
En fait, on a 85 élèves à l'école et c'est près de 60 membres du personnel qui travaillent avec eux quotidiennement.
Et la Fondation Espace Jeunesse, quelle est sa mission, sa raison d'être?
En fait, on peut compter, heureusement, depuis des années, on peut compter sur la Fondation Espace Jeunesse qui vient vraiment pour, qui offre en fait des services pour nos élèves. Parce que qui dit besoin particulier dit aussi qu'ils ont toujours des besoins de matériel adapté, des trucs comme ça.
Ouais.
Et ce qu'on utilise le plus présentement, c'est surtout le service de musicothérapie. Alors, depuis des années, la Fondation offre le service 3 ou 4 jours par semaine à nos élèves. Et c'est tellement positif pour ces élèves-là. Il y a plein de raisons, mais pour travailler au niveau de développement de l'élève, ça fait sortir le côté créatif, la sensibilité. Alors, c'est vraiment très positif chez nos élèves, la musicothérapie.
Ah oui, j'ai pas besoin d'être convaincue. Je le suis déjà. Le 12 janvier, vous allez organiser pour la première fois un spectacle bénéfice de musique traditionnelle. Dans quel but?
En fait, c'est venu d'une idée. Il y a deux spectacles, en fait. Il y a deux groupes. Il y a Belzébuth d'abord et ensuite de temps en temps. L'idée est venue parce qu'en fait, il y a un des musiciens du groupe de temps en temps, Pierre-Luc Dupuis, où sa fille vient à notre école et on en jasait un petit peu. Comme ça serait le fun de faire un événement. Et ce qu'on voulait, c'était bien sûr ramasser des fonds, mais on voulait aussi promouvoir notre fondation et faire voir nos élèves qui sont si beaux et si agréables à côtoyer et tout ça. Alors, on voulait vraiment, notre but, c'était de faire connaître notre fondation. Bien sûr, on veut ramasser des sous, ça c'est certain, hein, comme toute campagne de financement.
Bien oui.
Mais c'était vraiment dans le but de désintégrer un peu, puis de faire voir cette belle fondation-là qu'on a et notre belle école, en fait, aussi, parce qu'on a une très belle école qui est une nouvelle construction et on est choyés, vraiment très choyés.
Alors, deux groupes qui sont vraiment importants et appréciés quand on apprécie justement la musique traditionnelle,
oui,
mais il faut les connaître, même si on a peut-être moins de connaissances en musique traditionnelle, Belzébuth et de temps en temps, ils sont à découvrir. Et je lis sur le communiqué que ce sera suivi d'une soirée de danse traditionnelle.
Oui, fait que c'est vraiment une soirée canadienne, là, comme dans le temps, là, on met nos bottes dans le bain.
Changer de côté, vous êtes trompé.
Et là, ça va être au call, parce qu'on a Philippe Jeté, qui est aussi membre du groupe Belzébuth. Alors, il va venir nous caller quelques petites tounes pour qu'on puisse danser par la suite.
Ah, et où on peut se procurer des billets?
Dans notre coin, en fait, il y a la librairie René Martin, qui est dans les Galeries Joliette. Alors, il reste des billets là. Sinon, à la porte, ils vont en rester certainement. C'est 25 $ en prévente. Et sinon, à la porte, ça va être au coût de 30 $ Ça promet, je vous le dis, pour 30 $ vous allez avoir bien du plaisir.
Oui. Et donc, ça se passe au Centre Saint-Jean-Bosco à Saint-Charles-Borromée. Vous avez une capacité de combien de personnes?
On aimerait beaucoup vendre. On a 400 billets. Et là, on en a quand même beaucoup de vendus, mais on a 400 billets à vendre en tout.
Alors, avec tout l'argent que vous allez amasser, est-ce que vous prévoyez un projet en particulier? C'est toujours dans le créneau musique?
Bien, on est beaucoup, bien sûr, dans le créneau musique. C'est sûr que c'est quelque chose que moi, en fait, je me suis impliquée. Moi, je suis enseignante à Espace Jeunesse, mais je me suis vraiment impliquée dans la fondation parce que je croyais vraiment beaucoup à la musicothérapie. Alors, c'est sûr qu'il y aura toujours un budget qui va être pour ça, mais c'est sûr que sinon, il y a tellement besoin du matériel adapté. Alors, on va être ouvert aux demandes des enseignants, du personnel. Ici, les demandes sont... On a beaucoup de petits besoins pour nos élèves. On a au niveau de l'ergothérapie, au niveau du matériel adapté, des appareils électroniques, l'achat de matériel. Des idées, on en a pour le dépenser. Ça, il n'y a pas de doute.
Bon, alors, je vous souhaite que ça soit plein, que ça soit complet.
Oui.
C'est donc vendredi 12 janvier, ouverture des portes 19h, spectacle à 20h. Et je rappelle c'est au centre Saint-Jean-Bosco, l'adresse 249 Chemin du Golfe Est à Saint-Charles-Borromée. Alors, bonne soirée, puis ayez bien du plaisir, j'en doute pas deux secondes.
Oui, c'est certain. Pour eux, ça va être à leur image. Je vous le dis, ça va être plein d'amour cette soirée-là, ça va être à leur image.
Caroline Parent, enseignante à l'École Espace Jeunesse de Lanaudière et membre de la Fondation de l'École, merci pour cette entrevue.
Bien, merci beaucoup à vous.
Au plaisir.
Au revoir.
Ouais, cette musique réchauffe le cœur instantanément. La Tribune maintenant, portion régionale, pénurie de main-d'œuvre des employés adaptés. La pénurie de main-d'œuvre touche la grande majorité des industries du Québec. Des chefs d'entreprise optent pour la créativité quand vient le temps de contrer ce problème. Les 6 quotidiens du groupe Capital Média ont répertorié une douzaine de bonnes idées à lire jusqu'au 16 janvier. L'entreprise Défi Polytech de Sherbrooke a un chiffre d'affaires de plus de 5 millions de dollars. Elle fait entre autres de l'échantillonnage de planchers, de l'assemblage de céramique et de la préparation de câblage électrique pour des clients importants tels que l'Auto-Québec, les autobus Girardin, ainsi que pour les 2 paliers de gouvernement. Et Défi Polytech fait tout cela avec des employés bien particuliers. Défi Polytech est une entreprise adaptée, l'une des 41 au Québec. Presque tous les employés ont des limitations fonctionnelles. Nous avons à notre emploi environ 140 personnes avec des limitations à l'emploi, explique Benoît Lompré, directeur des ventes et du marketing de l'entreprise. Nos employés ont donc presque tous un handicap intellectuel, un problème de santé mentale, un handicap physique ou un trouble d'apprentissage diagnostiqué. On reçoit aussi beaucoup de stagiaires avec des difficultés d'apprentissage variées des différentes écoles secondaires de la région. Ils auront souvent de la difficulté à terminer leur secondaire. Ce sont des gens qui sont souvent très loin du marché du travail. Il y a même des gens près de l'itinérance qui décident de s'en sortir et qui viennent nous voir, précise-t-il. Éventuellement, la personne va développer des habiletés qui vont lui permettre de travailler ici en entreprise adaptée et même en entreprise régulière. L'entreprise doit certes faire les choses un peu différemment en raison de son personnel, mais arrive tout de même à être compétitive dans plusieurs domaines. Sur le site de Radio-Canada, quand la marche mène au dépassement de soi. D'une à 4 fois par semaine depuis octobre, un club de marche inclusif regroupant des personnes handicapées ou non se réunit au Centre Georges Vizina de Chicoutimi et au Palais des sports de Jonquière pour faire 1 heure d'activité, un moment aussi bon pour le corps que l'esprit. L'initiative est celle de la directrice de l'Association pour personnes handicapées du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Manon Blackburn. Elle souhaitait trouver un moment et un endroit pour réunir tout le monde à l'abri des intempéries. C'est mission accomplie parce que déjà, l'activité rassemble de plus en plus de gens. Ensemble, en marchant ou en roulant, les membres du club font le tour des gradins des arénas. Rencontrer des gens chaque semaine rend l'activité des plus agréables, ça rend de bonne humeur. Certains des marcheurs profitent beaucoup de la motivation créée au sein du groupe. Les gens ont envie de se dépasser, notent ceux qui accompagnent le club. À un moment donné, il y avait une madame, elle marchait avec sa marchette. J'ai essayé de lui montrer à marcher sans sa marchette. Maintenant, elle est capable de faire plusieurs tours sans sa marchette. C'est aussi de les pousser et de les encourager à en faire plus que ce qu'ils pensent ou qu'ils sont capables de faire, témoigne Vanessa Bergeron, une étudiante en kinésiologie de l'Université du Québec à Chicoutimi qui accompagne le projet. Les responsables aimeraient donner le goût de l'activité physique à tous les participants. Ils songent d'ailleurs à créer des clubs de marcheurs inclusifs intérieurs ailleurs au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le programme Gens d'exception de la Fondation REA ou REA, lancé le 18 décembre dernier, eh bien, j'en parle avec Daniel H. Lantaigne, directeur général de cette fondation. Bonjour, M. Lantaigne.
Bonjour à vous.
Alors, qu'est-ce que le programme Gens d'exception de la Fondation REA?
Donc, effectivement, on a lancé ça juste avant les fêtes. On est grandement inspiré par une initiative là, similaire là, qui s'appelle le programme Les Remarquables à la Fondation en vue de l'Institut Nazareth Louis Braille. On a constaté que beaucoup de gens ne voulaient pas seulement faire un don à la Fondation ou à l'établissement auquel ils sont venus, mais plutôt à un individu en particulier.
D'accord.
Les gens qui sont venus ici, et pour eux, ben, c'est une infirmière qui a fait toute la différence, c'est un physiothérapeute, ça peut être n'importe quel professionnel, et qui a fait la différence dans leur réadaptation. Donc, on s'est dit, ben, on va mettre en place une structure qui va faciliter le fait que les gens vont pouvoir partager un témoignage de reconnaissance et également faire un don en hommage, finalement, à ces gens-là. Et c'est là que le programme Gens d'exception a vu le jour.
Et comment faire valoir une candidature?
Donc, les gens, c'est-à-dire lorsqu'on envoie une première sollicitation à nos anciens patients qui sont venus ici, bon, on leur parle premièrement de ce programme-là maintenant. Les gens peuvent par la suite, s'ils préfèrent le faire de façon manuscrite, nous envoyer un témoignage par la poste, par télécopieur, là, par courriel. Et il y a une plateforme en ligne, donc les gens qui sont plus technologiques ou qui souhaitent le faire le plus rapidement vont sur notre site web à fondationrea.ca et remplissent, bon, écrivent leur petit témoignage, identifient quelle est la personne que l'on devrait reconnaître. Et puis nous, ben, dès qu'on reçoit cette information-là, bon, on va aller voir la personne reconnue, on va lui indiquer qu'elle a été reconnue dans le cadre du programme Gens d'exception. Donc, on lui remet une épinglette, on va la rencontrer, on la félicite. Et plus tard, en fin d'année, on fera un petit événement pour tous ces gens d'exception-là, là, finalement, qui ont fait la différence.
Oui. Et combien de gens d'exception sont admissibles par année?
Il n'y a vraiment aucune limite, donc on peut en reconnaître là, dans une année sans vraiment de limitation. On invite tous les gens qui souhaitent à faire un don, à passer des fois par ce programme-là qui va mettre une petite touche plus personnelle dans le don et dans la transaction, là, qu'on pourrait dire. Donc vraiment, tous les gens peuvent être reconnus.
Oui, il n'y a pas de limite et c'est une bonne chose aussi.
Et oui, combien... Il n'y a pas de petit don non plus, là, dans le sens que les gens peuvent faire un don de 5 $ s'ils souhaitent et envoyer le témoignage, et il va être remis le témoignage. Là. Et même, je vous dirais, à la limite, des fois, on reçoit des témoignages, puis on va aller les remettre, là, même s'il n'y a pas de don qui vient avec. Ça nous fait plaisir d'être un peu ce canal-là entre l'ancien patient et entre le professionnel.
Mm-hmm. Et combien d'anciens patients allez-vous pouvoir sensibiliser tous les ans? De quelle façon?
Je vous dirais que grosso modo, là, par année, on doit sensibiliser à peu près près de 10 000 anciens patients. Il y a beaucoup de gens aussi qui viennent chercher des services aux aides techniques. Donc, il y a plusieurs rencontres qui se font là. L'ensemble des patients qui ont été admis dans nos 3 centres de réadaptation. Donc, vraiment, on a un bassin très important de gens. Puis, bon, les patients qui viennent ici également là, vont voir des différentes brochures, des dépliants d'informations. Ils vont pouvoir prendre connaissance de ce programme-là.
Est-ce que c'est un programme qui est né en 2017?
Ce programme qui est né le 18 décembre 2017 chez nous, il existait depuis à peu près un an. C'était le programme, comme je disais, à l'Institut Nazareth Louis Braille. Et vraiment, quand j'ai pris connaissance de ce programme-là, je dis, ben, ça ne sert à rien de réinventer la roue. Le programme, il est fabuleux. Il fait ce qu'il a à faire. Donc, vraiment, j'ai contacté la Fondation. J'ai dit, écoutez, je vais pas juste m'en inspirer. Je vais pas mal le copier-coller si ça vous dérange pas. Puis, en fait, ben oui, allez-y. Ça nous fait. C'était même un honneur pour eux là, qu'on s'inspire autant de leur programme. Et puis déjà, vous voyez, on a déjà reçu 3 témoignages là, durant les fêtes là, en ayant lancé le programme rapidement comme ça.
Ah, bien, c'est fantastique. Et la Fondation REA pour 2018 a-t-elle des résolutions?
On a beaucoup de résolutions. On veut faire connaître davantage la réadaptation, la réalité des personnes vivant une situation de handicap. On veut évidemment continuer à se faire connaître. Là, vous voyez, les gens commencent de plus en plus à connaître notre nom REA qui résonne un peu partout.
Mm-hmm.
Donc, on veut continuer d'être encore sur toutes les tribunes, bien se faire connaître. On va mettre de l'avant aussi d'autres activités de financement pour que tout un chacun puisse s'y retrouver là, s'il y a le goût de participer à un défi de nature plus sportive ou un truc un peu plus chic. Là, comme un cocktail. Donc, vraiment, on va mettre la table pour, évidemment, ultimement, c'est toujours financer des projets en réadaptation. Donc, ça reste notre mission. Là.
Oui. Alors, le programme Gens d'exception, si on veut y participer, on peut y aller par Internet ou de quelle façon? Il y a d'autres manières de procéder?
Oui, donc les gens peuvent nous contacter directement à la Fondation, peuvent aller sur notre site web à fondationrea.ca. Donc, il y a vraiment une section dans la section des dons qui s'appelle « gens d'exception » où les gens peuvent également nous écrire par la poste avec leur témoignage. Ça va nous faire plaisir de l'acheminer. Donc, vraiment, toutes les avenues sont possibles. Les gens peuvent nous appeler toujours au 514-340-2707.
Parfait. Daniel H. Lantaigne, ben bonne année.
Bien, merci à vous également.
Et puis, au plaisir de vous reparler cette année.
Très certainement.
La réadaptation par les jeux vidéo, c'est sur le site de Radio-Canada. Un centre de réadaptation Nouveau-Brunswick offre la première thérapie de réadaptation à l'aide de jeux vidéo commerciaux au Canada. Des patients avec des handicaps lourds peuvent maintenant retrouver le plaisir de jouer à leurs jeux favoris et les bienfaits sont nombreux. Alain Guittard est un patient du centre Stan Cassidy à Fredericton, au Nouveau-Brunswick, depuis 8 ans. À 16 ans, Alain a été victime d'un grave accident qui l'a rendu tétraplégique. Après son accident, jouer à des jeux commerciaux était devenu presque impossible pour lui. Actionner les manettes était très difficile. Mais depuis quelques semaines, ses séances de récréothérapie sont beaucoup plus amusantes. Alain peut maintenant jouer à ses jeux préférés. Grâce au nouveau programme du Centre de réadaptation Stan Cassidy, il a retrouvé tous les outils pour se mesurer dignement à ses amis. Le programme a vu le jour à la demande des patients. Mais il s'est réalisé grâce à des dons de la communauté et à la volonté d'une petite équipe multidisciplinaire composée d'une récréothérapeute, d'une ergothérapeute et d'un ingénieur en réadaptation. En se basant sur les jeux commerciaux les plus populaires, l'ingénieur en réadaptation Josh Keys transforme les manettes pour qu'ils puissent jouer ou confectionne des outils entièrement adaptés aux jeux choisis par ses patients. Ce programme est le premier au pays. Des réadaptations du genre existaient déjà en Grande-Bretagne et aux États-Unis, mais pas au Canada. Pour l'instant, une vingtaine de patients profitent du nouveau programme. Sur lanouvellerépublique.fr, Sébastien Lemot, malvoyant depuis l'âge de 17 ans, est aussi un sportif accompli qui se mesure au valide sur des épreuves mondiales de paddle et de pirogue. Suite à un accident de moto, ce sportif déjà accompli avait déclaré une maladie génétique rare, la maladie de Stargardt. Il ne perçoit que 1/50 de la vision totale d'un voyant et ne voit que sur les côtés. Face à l'adversité, Sébastien a pris le dessus par le sport. Depuis plus de 20 ans, il multiplie des exploits surhumains aussi bien sur les tatamis de judo qu'avec une rame ou une pagaie en main. Mais cette fois, c'est à un très gros morceau que s'attaque le fond de toit. La mythique course sur la Yukon River au Canada qui se descend en kayak, en canoë ou à paddle sur une distance de 750 km. Une épreuve de l'extrême qu'il va tenter avec son complice, le Tahitien Apeo Chinpiu, qui le guide lors des épreuves. Ce sera le seul duo français parmi les 20 équipes engagées dans cette course de l'extrême. Et Sébastien sera le seul concurrent handicapé. Le duo table sur un temps ahurissant de 56 heures, soit une moyenne de 13,5 km à l'heure, pour rallier les deux villes de Whitehorse et Dawson City par le fleuve. 3 jours et 2 nuits debout sur leur planche à pagayer, à éviter les écueils en gardant le bon cap car la rivière s'élargit parfois sur des kilomètres autour de petites îles. Sébastien et Apeo n'ont pas encore bouclé leur budget pour leur participation. L'acheminement par avion jusqu'à Vancouver de leur planche de 6 mètres coûte déjà 8 000 €. Ils sont en recherche de sponsors. Sébastien et Apeo emmènent dans leur bagage un photographe qui réalisera des reportages et des films vidéo sur leur exploit. Info sur Andy Vision Sport Événement, courriel judo seb à commercial wanadou.fr. des aveugles pour détecter le cancer du sein. Lady s'est réveillée aveugle le matin de 2011. Francia n'y voyait déjà plus. Privées de la vue, ces femmes ont développé un autre sens, le toucher, grâce auquel, aujourd'hui en Colombie, elles détectent des cancers du sein. Lady et Francia sont deux des cinq aveugles ou malvoyantes formées à Cali pour prévenir cette pathologie cancéreuse la plus répandue dans le pays avec 7000 nouveaux cas chaque année et 2500 morts. Elles ont suivi en 2015 la méthode du médecin allemand Frank Hoffmann. Depuis une dizaine d'années, il argue que les non-voyants ont des facilités pour détecter les nodules, agglomérats de cellules, qui sont souvent le premier symptôme de la maladie. Les personnes atteintes d'un handicap visuel ont une sensibilité accrue, un sens du toucher développé qui leur permet de mieux distinguer les éléments permettant un diagnostic, a déclaré le chirurgien Luis Alberto Olave, coordinateur du programme Mains qui sauvent des vies à l'hôpital de San Juan de Dios à Cali. Quelque 71 000 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués chaque année dans le monde. La méthode du Dr Hoffmann, appliquée en Allemagne et en Autriche, est arrivée jusqu'en Colombie avec le soutien de la Banque de développement de l'Amérique latine. Cinq femmes âgées de 25 à 35 ans, dont une de nationalité mexicaine, ont été sélectionnées. Elles ne devaient présenter aucun problème vasculaire ou neurologique pouvant altérer leur sensibilité. Puis elles ont été formées comme auxiliaires d'examen tactile. Depuis, elles ont reçu plus de 900 patientes. Nous combattons un préjugé selon lequel, parce que nous avons un handicap, nous ne pouvons penser ou être autonomes, a souligné Francia, 35 ans, qui a perdu la vue, suite à un décollement de rétine à l'âge de 7 ans. TVA, l'un des plus importants diffuseurs du Québec, a déposé une demande auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes pour lui permettre de cesser de produire des émissions en français avec de la vidéo description. Ils demandent au CRTC de modifier leur licence afin que seuls les programmes diffusés après septembre 2019 soient décrits avec la narration pour les personnes aveugles. La demande de TVA demande également que le CRTC ne les oblige pas à ajouter de la vidéo description à tous les programmes actuellement en production ou qui ont été produits dans le passé. Si la demande de TVA est couronnée de succès, la quantité de programmation en français avec vidéo description continuera de se situer loin derrière le reste du Canada anglophone. Ici Hélène Denis, un grand merci à mon équipe Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde et aussi Anne-Laure Janson à la recherche. Merci à mes invités Caroline Parent ainsi que Daniel H. Lantaigne. Je vous souhaite une belle journée et encore une fois une très belle année. À bientôt demain!